Bon vendredi matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Toute une belle émission avec plein de bonnes choses à discuter ensemble ce matin, en cette matinée ensoleillée qui nous annonce une fin de semaine, une belle fin de semaine. J'ai envie de vous parler d'un livre en deuxième heure d'émission. Je vous le dis tout de suite, ça va être fascinant, surtout à la lumière de ce qu'on a vu cette semaine là, dans l'amarrissage de cette capsule qui va prendre des photos de Mars pour essayer de voir si il y a déjà eu de la vie sur cette planète. Moi, ça me fascine, tout ce qui touche l'astronomie. Et il y a un livre qui vient de paraître qui s'intitule « Extraterrestre » qui nous parle des premiers signes de vie intelligente. Sincèrement, là, si vous avez un livre à lire et à faire lire à vos enfants pendant la relâche, c'est bien celui-là. On s'en parle à 11h30. Évidemment, autre gros dossier d'actualité, je pense que c'est le gros dossier de la journée, c'est la campagne de vaccination qui va donc reprendre avec un vaccin qui, en première dose, donne finalement une bonne couverture. En tout cas, les chercheurs semblent être très satisfaits. La première injection des vaccins de Pfizer et de Moderna serait donc efficace à 80 %, ce qui donne d'une certaine façon raison à Québec qui avait dit, bon, ben, regardez-nous, là, devant la pénurie, on va étaler un peu le délai entre la première et la deuxième dose. Cette stratégie-là, finalement, s'avère être plutôt intéressante dans la mesure où, à 80 %, c'est bon là pour un vaccin. La preuve, c'est qu'on va en discuter tout de suite avec le président du comité sur l'immunisation du Québec. Il est également médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec. C'est le docteur Nicolas Brousseau. Bonjour, docteur Brousseau.
Bonjour, Madame Maréchal.
Expliquez-nous ce que ça veut dire, alors, ce résultat de 80 % pour cette première injection du vaccin. On parle bien ici des vaccins de Pfizer et de Moderna.
Oui, c'est avec les deux vaccins qui sont disponibles. En fait, il faut bien comprendre que cette efficacité-là a été mesurée au Québec là, avec les données disponibles là, pour les travailleurs de la santé puis les résidents du CHSLD qui ont été vaccinés. Puis oui, on était fort heureux de constater l'efficacité de 80 % qu'on a mesuré. C'est quand même une réduction de ça signifie une réduction de 5 fois le risque là, de faire la maladie, de faire la COVID-19. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a la même efficacité chez les résidents de CHSLD qui sont très vulnérables que chez les travailleurs de la santé. Puis ces résidents-là, ces personnes-là n'avaient pas été incluses dans les études cliniques des compagnies pharmaceutiques. Donc oui, il y a vraiment un impact majeur du vaccin. C'est très positif.
Comment on est arrivé à ce 80 %
Bien, en fait, c'est en faisant des études qu'on appelle épidémiologiques. On a un registre au Québec de tous les cas de COVID-19. On a aussi un registre de vaccination où tous les actes vaccinaux sont colligés. Donc, ça nous permet de comparer le risque de maladie chez les personnes vaccinées versus le risque de maladie chez les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin. C'est comme ça qu'on arrive aux conclusions. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on était parmi les premiers à dévoiler des chiffres comme ça. Mais ce matin, en Israël, il y a une étude qui est sortie d'Israël avec une efficacité du même ordre, de 80 à 85 %. Donc, ça, les études des autres pays ont l'air de corroborer là, la bonne efficacité là, des deux vaccins qui sont utilisés au Québec.
Oui. Cette étude, d'ailleurs, a été publiée dans le New England Journal of Medicine, c'est bien ça?
Oui, ben, dans le fond, il y a des chercheurs canadiens qui ont publié des résultats dans le New England. Les données israéliennes viennent d'être publiées dans le Lancet, qui est une des autres revues parmi les plus prestigieuses. Peut-être une chose qui est importante de mentionner, c'est qu'il reste que ça prend un certain délai avant que l'efficacité se développe. Donc, nous, on a mesuré ce 80 %-là quand ça faisait quelques semaines que les personnes ont été vaccinées, mais ça prend 2, 3, 4 semaines avant que notre système développe sa réponse suite à la vaccination. Donc, un danger, ce serait que les gens se pensent invincibles après la vaccination puis se mettent à adopter des comportements qui sont moins sécuritaires. Donc, il faut voir vraiment comme un complément aux autres mesures de santé publique puis garder les autres précautions parce que, bon, 80 % c'est très bon, c'est pas 100 % non plus. Donc, même après 3 à 4 semaines, quand la protection est installée, on n'est pas invincible, il faut garder ces précautions.
Mais donc, une efficacité d'un vaccin à près de 80 %, est-ce qu'on parle d'une immunité relative, d'une immunité moyenne à forte? Comment vous l'évaluez, ce 80 %? Au-delà du fait de dire, ben, c'est satisfaisant, puis dans un contexte de pénurie de vaccins, ça nous conforte finalement dans notre décision de dire, on va d'abord donner une première dose avant d'en donner une deuxième.
Là. Bien, on pourrait dire un score comme ça, ça se compare quand même avantageusement à plusieurs vaccins. Là, le vaccin contre la grippe fait une énorme différence, mais l'efficacité moyenne est de 40 à 50 %. Donc, c'est vraiment une bonne performance. Puis on le voit dans les présentement dans les CHSLD, le nombre de cas a diminué drastiquement. Là, ça a diminué de près de 95% globalement, qui est une valeur très élevée parce qu'en plus, il y a eu des mesures ont été renforcées là, dans ces milieux-là pour limiter la transmission. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis oui, ça conforte dans l'idée que il n'y a pas de presse pour donner la deuxième dose de vaccin. Les gens sont bien protégés. Puis on mentionne aussi quand même la deuxième dose est importante, va permettre d'assurer une bonne protection à très long terme. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut se concentrer à protéger avec une dose les personnes les plus vulnérables.
J'allais vous dire si c'est satisfaisant. Puis là, vous comparez avec le vaccin contre la grippe. Finalement, celui-là, jusqu'à preuve du contraire, il serait efficace, vraiment beaucoup plus efficace. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une deuxième dose? Parce qu'on a beaucoup dit que c'est important d'avoir cette espèce de capacité à convaincre les gens à aller se faire vacciner. Le fait que ça soit donné en deux doses, il y a bien des gens qui disent hey, déjà aller pour une, ça va me prendre tout mon petit change d'y aller pour une deuxième. Est-ce qu'on pourrait se contenter d'une dose finalement?
Bien, je pense que la deuxième dose va être importante. Ça va procurer un certain bénéfice supplémentaire. Puis, par contre, c'est difficile de dire à l'heure actuelle quel va être le meilleur moment pour la donner. Nous, dans le fond, au Québec, on suit de façon presque quotidienne l'efficacité du vaccin. C'est sûr que si on voyait une baisse d'efficacité de la première dose avec le temps, on donnerait le signal pour que la deuxième dose s'assainisse rapidement. Mais présentement, on n'a pas de signal de baisse d'efficacité. Mais il reste que on s'attend à ce que dans un certain nombre de mois, l'efficacité éventuellement diminue. Il y a aussi les variants qui arrivent. Leur impact est peu connu, mais pourrait éventuellement rendre les vaccins un peu moins performants. Donc, je pense que oui, ça va être très important que les gens se rendent pour leur deuxième dose quand pour être déterminé le moment optimal.
Oui. Sur l'efficacité, parce que c'est quand même important, c'est le nerf de la guerre, hein, Nicolas Brousseau, comme médecin, vous surveillez ça. L'efficacité là, de près de 80%, on dit près de 80%, donc c'est quoi? C'est 78, 79? C'est pas 80, là?
Ben, en fait, c'est 80, pas mal pile. On l'a mesuré de trois méthodes scientifiques différentes. Puis dans tous les cas, là, on arrive à 80%, donc à une réduction de 5 fois du risque. Donc
c'est 80. C'est parfait.
Oui, on arrive pile dessus.
C'est facile quand c'est un chiffron comme ça. Toutefois, chez les gens âgés et chez les plus jeunes, l'efficacité n'est pas atteinte au même nombre de jours. Là. C'est un peu plus long pour les personnes âgées de ce qu'on comprend.
Oui, bien, au départ, il y avait une crainte que le vaccin soit moins efficace chez les personnes très vulnérables. Comme j'ai mentionné, on a la même performance, mais oui, là, on pourrait dire que le système immunitaire des personnes plus âgées, on pourrait dire, est plus lent à répondre, ou ça prend un peu plus de temps avant de développer la protection. Donc oui, on a souvent parlé du 14 jours là comme chiffre magique pour atteindre la protection, mais effectivement, chez les aînés, ça semble plus autour de 3 à 4 semaines pour avoir la protection maximale. Donc, c'est quelque chose à retenir que ça prend du temps, puis qu'il ne faut pas se penser protéger tout de suite après la vaccination.
Ça, c'est une donnée importante, ça, effectivement, parce que les gens
pourraient... Oui, ça vient d'émerger. C'est des choses qui ont été découvertes dans les derniers jours.
Mm-hmm. Donc, ça prend au moins 21 jours, puis vous dites même probablement jusqu'à 4 semaines, là, donc un bon mois. Alors que chez les plus jeunes, au bout de 14 jours, ils sont plutôt protégés, à 80% toujours, là.
Oui, ben le système immunitaire est plus rapide à développer la protection. Nous, c'est sûr que on n'a pas encore un délai de suivi très long, donc on voit toujours une tendance plus à la hausse de la protection avec le temps qu'à la baisse, mais c'est dans les prochaines semaines qu'on va avoir plus d'informations pour voir bon, est-ce que la protection se stabilise, continue à augmenter, éventuellement diminue. La clé, c'est vraiment de suivre les données en temps réel, puis on pourrait dire qu'on est quand même bien équipé au Québec. On a des bons systèmes d'information. Au niveau du comité sur l'immunisation du Québec, on se voit à chaque semaine pour évaluer, mettre à jour la performance du vaccin. Donc, on suit les choses très étroitement.
Ça vient de vous, cette décision-là, puisque vous êtes président du comité sur l'immunisation du Québec. Ça vient de vous, Dr Brousseau, et de votre équipe, l'idée de dire, regardez, en contexte de pénurie, on en donne une, puis on attend. On en donne une à tout le monde. On verra pour la deuxième s'il nous en reste. Est-ce que c'est une décision qui a été prise par vous et votre équipe?
En fait, le comité prend pas de décision, mais fait plus des recommandations. On est une équipe de 12 scientifiques, experts en santé publique, microbiologistes, infectiologues. C'est un comité, d'ailleurs, qui existe depuis plus de 30 ans, donc il y a une bonne expérience au Québec en vaccination. On a identifié ces données-là encourageantes après la première dose. Dans le fond, on formule nos recommandations au ministère de la Santé. On lui a dit, ben, l'efficacité est bonne après une dose, vous allez sauver plus de vies en donnant une dose à plus de gens, prévenir plus d'hospitalisations, mais c'est sûr qu'ensuite, ça reste au ministère de la Santé à développer la stratégie exacte, prendre les décisions finales sur l'intervalle entre les doses de vaccins. Donc, on a un groupe de scientifiques pour éclairer le gouvernement pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles.
Gouvernement du Québec, parce que quand on regarde le fédéral, j'imagine qu'aujourd'hui, vous devez un peu rire dans votre barbe, Dr Brousseau, quand on relit les premiers commentaires de la santé publique du Canada, qui a beaucoup pointé du doigt la stratégie du Québec, qui a dit qu'on ne devait pas faire ça, qu'il fallait suivre à tout prix les recommandations des fabricants du vaccin, entre autres de Pfizer, qui disait non, ça prend absolument deux doses, puis pas plus, pas trop de délai entre la dose 1 et la dose 2, alors que là, finalement, la stratégie du Québec, c'est d'aller même jusqu'à 90 jours, donc trois mois après la première dose, donner la deuxième. Là, on se rend compte que finalement, il vaut mieux la donner une que pas du tout ou donner deux aux mêmes personnes. Donc, quand ils vous ont pointé du doigt comme ça, à la lumière des résultats d'aujourd'hui, quelle est votre réaction?
Bien, je pense qu'il y a eu effectivement plusieurs critiques, un débat scientifique suite à ça, parce que ça a été une recommandation avec peu de données disponibles, mais quand même, dès le comité, dès les... La sortie des premières données des compagnies pharmaceutiques a pu un peu lire entre les lignes puis déceler la bonne efficacité après une dose. Je pense que finalement c'est une bonne nouvelle pour tout le monde de voir cette bonne protection-là. Puis au cours des prochaines semaines, j'ai l'impression que d'autres provinces, pays, juridictions vont considérer d'étendre l'intervalle entre les doses pour vraiment donner un coup, donner une première dose à plus de gens possible. Ça peut vraiment faire une différence de centaines de vies sauvées, de centaines d'hospitalisations prévenues. C'est quand même une décision qui peut avoir un impact majeur parce qu'on vient doubler là, à court terme le nombre de personnes qui peuvent être protégées dans un contexte où ça circule beaucoup, la COVID. Les gens sont constamment à risque d'être infectés puis d'avoir une infection sévère. Donc, il y a vraiment une course ou une urgence à vacciner le plus possible de gens vulnérables.
Et là, les vaccins vont arriver là, ou sont arrivés ou devraient... C'en est où, là, Dr Brousseau? Parce que la question que je pose aux gens ce matin, c'est quand est-ce que vous pensez espérer pouvoir vous faire vacciner? On parle souvent de l'adhésion à la vaccination, c'est pas gagné. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents, même parmi le personnel de la santé, les gens dans les RPA, les ressources pour personnes, les résidences pour personnes âgées. Il y a des gens encore cette semaine qui m'appelaient pour me dire, des employeurs dans des CHSLD ou même des résidences qui me disaient, moi, sur 14 employés, il y en a que 4 qui veulent. Donc, c'est pas gagné. Cette adhésion-là est pas unanime. Ça rajoute aussi à toute cette difficulté. Donc, mais le Québécois qui nous écoute en ce moment-là, puis qui dit, ben moi, c'est quand, là, mon tour? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bien, c'est sûr qu'on a toujours une pénurie de vaccins. On a juste réussi à vacciner 3% du Québec. C'est très peu. Donc, les livraisons sont annoncées pour être plus grandes. Mais à court terme, jusqu'à la fin mars, ça va être surtout la vaccination des personnes en résidence privée pour aînés, les personnes de 80 ans et plus. Mais c'est vraiment plus à partir des mois d'avril, mai, juin que là, les personnes plus jeunes vont pouvoir se faire vacciner. Donc, on est encore pendant quelques mois en grande pénurie, puis sous peu, ça va débloquer finalement.
Mais donc, la moyenne des gens ne sera pas... Les Québécois ne seront pas vaccinés cet été, là?
Bien, ça dépend aussi des autres vaccins qui sont homologués, mais je pense que c'est vraiment autour des mois de mai, juin et juillet que là va arriver de façon massive des vaccins. Donc, j'ai l'impression que quand on va être rendu au milieu à la fin de l'été, on pourrait dire qu'une majorité de Québécois pourraient espérer être vaccinés, mais dans les 2-3 prochains mois, ça va être encore très lent. Puis, vous parlez de l'aspect de sécurité. Je pense que les données vont quand même encourager les travailleurs de la santé à vouloir se faire vacciner. On voit la bonne efficacité. On suit aussi la sécurité des vaccins depuis plusieurs semaines. On n'a pas de signal de problème de sécurité. Donc, avec aussi pour considérer la sévérité de la maladie qui est importante. Je pense que avec le temps qui passe, de plus en plus de gens vont se rallier à la vaccination puis vont vouloir l'obtenir.
Ouais. Ben merci beaucoup, Dr Nicolas Brousseau, d'avoir pris le temps de nous parler. Dr Brousseau est le président du Comité sur l'immunisation du Québec. Il est médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Intéressant tout ça, vous voyez, là, c'est vaccin efficace en première injection à 80 %. Évidemment, il y a plein d'autres questions qui se posent. On va en poser d'autres, d'ailleurs, à notre prochain invité, le virologue Benoît Barbeau. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, à la lumière de ce qu'on vient de nous dire. Êtes-vous rassuré? Êtes-vous finalement plus enclin à dire « Ah, oh, ben tiens, regarde, première dose, 80 %, moi, ça me conviendrait, ça me convainc aussi de l'importance de se faire vacciner. » Je pense qu'il faut quand même le rappeler, cette adhésion à la vaccination n'est pas unanime. Il y a encore beaucoup de poches de résistance. On peut comprendre pour toutes sortes de raisons, puis on force personne à se faire vacciner au Québec, là, vous le savez. Il faut que ça soit un geste volontaire. En même temps, c'est un geste communautaire aussi. Donc là, on regarde le tableau de vaccination, puis dans un contexte de pénurie, on savait qu'en ce moment, même si on souhaitait être vacciné, il n'y en avait pas de doses. Mais sachant que ça va repartir, on va recevoir 400 000 doses de Pfizer ces jours-ci, est-ce que ça vous convainc qu'il faut vraiment le faire, c'est-à-dire adhérer à cette vaste campagne de vaccination? Puis d'après vous, ça va être quand votre tour? 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On parle de cette grande campagne de vaccination ce matin. On fait le point parce que, ben, vous l'avez entendu avec mon invité précédent, là au Québec, il y a un petit peu de pétage de bretelles, je vous avoue. Ça doit faire l'affaire de l'Institut national de la santé publique, au moins d'avoir cette bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué finalement qu'il y avait une bonne efficacité du vaccin de Pfizer et de Moderna. Ces deux vaccins, donc, qui ont été administrés à relativement peu de gens quand même au Québec. 300 000 personnes, on le sait, c'est pas grand-chose, là. Mais ça nous enligne quand même pour dire ce vaccin-là, il semble être efficace à 80 % en première dose. Et vous souvenez, on l'a dit, là, le Québec avait décidé, devant la pénurie de vaccins, de reporter la deuxième dose. Et ça, bon, ça a fait beaucoup discuter parce qu'on se disait, ouais, mais c'est pas ça que Pfizer disait, le vaccin Pfizer-BioNTech, le premier finalement qui a été inoculé. Ben, ce vaccin-là, Pfizer était très ferme là-dessus au début. Il faut absolument que la deuxième dose soit donnée plus tôt que tard. Or là, le gouvernement du Québec avait dit, ben nous, on va reporter ça entre 42 et 90 jours. Aujourd'hui, bon, est-ce que à 80 % on s'en satisfait d'une première dose? Vous avez entendu tout à l'heure le Dr Brousseau qui s'occupe de ce comité justement d'immunisation au Québec. Lui dit, il faudra quand même en avoir une deuxième, mais c'est quand même encourageant. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Beaucoup de gens d'ailleurs qui sont immunosupprimés, là, qui veulent savoir si dans leur cas, ça s'applique aussi, ce 80 %. On va parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que mon prochain invité est virologue. Il est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Benoît Barbeau, bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal.
Comment vous réagissez-vous à ce résultat de 80 %?
Bien, c'est des résultats qui sont très encourageants et qui démontrent qu'en effet, la première dose suffit. Je crois que ça met un peu, ça met une certaine perspective par rapport à tout ce qu'on a entendu au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Parce qu'on avait vraiment des données, des pourcentages qui allaient dans tous les sens, puis on se demandait vraiment quelle était la situation au Québec. Alors, le 80 %, il faut comprendre que c'est une valeur qui est quand même importante. Donc, mm-hmm. C'est une protection qui est non négligeable, même au-dessus du seuil que même le FDA avait initialement proposé pour les phases d'études cliniques 3. Et en plus, c'est dans des populations qui est plus vulnérable. Alors, donc le système immunitaire qui est probablement moins actif. Contrairement à la phase clinique 3 de Pfizer et Moderna, où c'était vraiment des jeunes adultes qui étaient des gens qui étaient beaucoup plus, évidemment, probablement, qui répondaient mieux au vaccin. Alors, c'est des résultats qui démontrent que, oui, le vaccin, plus particulièrement au niveau de la population vulnérable, donc les personnes plus âgées, offre une protection face au développement des symptômes reliés à la COVID-19. Et mm-hmm. ça, en effet, cette valeur-là, elle est quand même assez importante et assez forte pour nous permettre de comprendre qu'une première dose déjà nous donne une protection qui est, comme je l'ai dit, extrêmement fiable.
Et satisfaisante, là, bon.
Oui.
Même si on maintient quand même la deuxième dose, d'après vous, M. Barbeau.
Mais, écoutez, de toute façon, la question, oui, en effet, la deuxième dose doit rester. Et puis, il faut quand même mettre une bémol par rapport à ce que les compagnies Pfizer et Moderna avaient avancé, puis eux, évidemment, d'ajouter une deuxième dose, c'est toujours...
Ben, c'est tout plus payant que d'en avoir qu'une,
exactement.
C'est sûr.
Il faut le comprendre, mais n'empêche que eux, ils peuvent pas clamer que cette deuxième dose-là, après 3 semaines, et le protocole optimal. Parce qu'ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais testé en phase clinique 3, qu'est-ce qu'il y en était s'ils retardaient de 8 semaines ou de 12 semaines exact. La deuxième dose. Mm-hmm. Et donc, ils sont venus à un protocole très serré. Et puis, le temps, justement, était...
On a servi de cobaye un peu, c'est ça que vous dites, finalement.
Oui, en effet, mais il fallait avancer très rapidement, avoir des résultats très rapidement. Mm-hmm. Et eux, évidemment, ils ne pouvaient pas y aller avec... On parle de 40 000 participants. On ne pouvait pas arriver avec 4 à 5 différentes doses. Alors, ils ont étudié le protocole et ça l'a démontré des résultats qui étaient satisfaisants. Même, il a fallu que certains de leurs résultats soient révisés par rapport à la première dose. Donc, on parlait de 54 % d'efficacité qui était un petit peu moins bien interprétable. Donc, et là, finalement, on s'aperçoit qu'une première dose en soi donne une très bonne protection et puis que probablement, comme le gouvernement le suggère, on parle de 12 semaines de délai, pourrait quand même, en fait, être suffisant, en fait, être un protocole qui est valable pour, après, administrer la deuxième dose et protéger la personne qui a reçu la première dose contre le développement de cette maladie une fois infectée.
Et dès qu'on parle de vaccin, il y a toujours beaucoup de questions de la part de notre auditoire. Alors, on va aller voir du côté des auditeurs ce qu'ils en pensent puis quelles sont leurs inquiétudes. Entre autres, Martin, vous en avez, vous. Bonjour.
Oui, bonjour, Mme Maréchal. Au niveau des vaccins, écoutez, je ne m'attends pas à me faire vacciner bientôt. J'ai 48 ans.
Mm-hmm.
Je pense pas que ça va venir d'aussitôt, sauf qu'il y a quelque chose que je déplore, c'est que je suis chauffeur à la STM à Montréal. Je comprends pas que nous, au transport en commun, puis je parle pour tout le réseau, on soit pas en priorité dans les vaccins après les infirmiers ou le milieu médical. Parce qu'on travaille avec des mères de personnes, de gens, des masses de monde, en fait, à longueur de journée, dans des endroits cloisonnés. Fait que je comprends mal qu'on soit pas mis en priorité, tu sais.
Oui, effectivement. Peut-être là-dessus, Benoît Barbeau, on peut dire pour ça, rassurer Martin. Ouais. C'est des choix.
C'est une décision,
hein?
Une décision du gouvernement. C'est eux qui établissent quels sont les gens qui sont plus à risque. Mais c'est certain que si vous êtes plus que vous êtes en contact avec d'autres personnes, même si vous appliquez les mesures qu'on vous demande d'appliquer, vous êtes plus sujet à être infecté, donc à être sujet à être infecté par le virus. Alors, le gouvernement, évidemment, il va avec selon leurs priorités ou qui devrait premièrement être priorisé pour recevoir le vaccin. Et puis, il faut comprendre aussi qu'ils vont sûrement toujours miser, non seulement évidemment les personnes qui sont plus sujets à être en contact avec d'autres personnes dans un milieu fermé, mais aussi également ceux, évidemment, qui ont problèmes au niveau de leur santé, donc ils sont immunosupprimés et donc plus vulnérables. Alors, ça en soi, je crois que c'est important, mais après coup, évidemment...
Qui ont des maladies chroniques aussi, vous mettez les gens...
Oui, exactement. Ouais, et surtout pulmonaires. Donc, si on a des problèmes au niveau des poumons, au niveau des voies respiratoires, certainement, cette priorité-là doit être donnée. Et puis, on comprend parce que vous savez que dès que vous avez des maladies chroniques ou des maladies qui font en sorte que vos symptômes vont s'aggraver beaucoup plus si vous êtes infecté, eh bien, vous devez être priorisé.
Mais là,
après coup,
j'allais vous dire, Benoît Barreau, parce que là, vous ouvrez toute une vaste éventail de questions très pratiques, genre, OK, mais si j'ai une maladie chronique ou si je suis immunosupprimée, mais que je ne suis pas sur la liste, personne ne m'a appelé, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens téléphonent? Savez-vous comment ils peuvent s'y prendre?
Ben moi, je crois que, écoutez, ça c'est, évidemment, c'est plus de la logistique au niveau de la santé publique. Je crois que la meilleure chose, c'est en effet d'aller sur le site Internet puis de contacter, justement, d'utiliser le numéro de téléphone ou par courriel, donc de voir un peu comment ça fonctionne. Mais certainement, il y a une logistique derrière, évidemment, l'administration des vaccins. Maintenant, il faut comprendre quand même qu'on est aussi un peu dépendant des entreprises, des compagnies qui fournissent les doses vaccinales. Alors, on a vraiment subi des conséquences par rapport aux problèmes d'approvisionnement. Mais je crois quand même que le gouvernement a quand même une feuille de route qui est assez claire, puis qui savent très bien qui doit être priorisé. Et tous ceux qui ont en effet des problèmes au niveau leur santé, les ceux qui sont immunosupprimés devraient quand même être visés, mais je considère que vous devriez
Vous informer de ça. Oui, c'est ça, mais c'est tellement difficile en ce moment, je vous avoue. Puis j'ai des gens, je le vis dans ma famille aussi. J'ai Claude là, qui m'écrit, sa fille, 30 ans, atteinte de fibrose kystique, très vulnérable. Il dit elle devrait passer en priorité, mais elle ne passe pas en priorité. Lui, il trouve ça terrible. Il dit elle est en forme, elle peut travailler, mais elle est cloîtrée depuis mars 2020. parce que ça peut être excessivement dangereux pour elle, alors qu'elle pourrait travailler si elle était vaccinée. Là. Donc, si vous saviez le nombre de messages que je reçois de gens qui ont des enfants ou des jeunes ou même des personnes à mobilité réduite, des gens qui ont des certains handicaps qui disent « on devrait, personne nous appelle, qu'est-ce qu'on peut faire? »
Je sympathie grandement avec moi, malheureusement.
Ben, je sais bien. Vous êtes virologue, Benoît Barbeau. On va aller à la pause là-dessus, mais je trouve ça intéressant de vous poser la question. Oui. Effectivement. On s'arrête ici. 514-790-9850. On a beaucoup de gens là, qui veulent intervenir. Je vais vous donner la parole après la pause. De l'extérieur, partout au Québec, 1-866-790-9850. Quand est-ce votre tour? C'est un peu ça la question. Quand est-ce que vous pensez avoir l'occasion, j'allais quasiment dire la chance, de vous faire vacciner? Parce qu'un vaccin en première injection, 80%, moi, sincèrement, je trouve que c'est une bonne nouvelle en ce vendredi. Tu sais, des fois, on dit, on les cherche, il y en a une, on la prend, on est content. Tu sais, on va passer une belle fin de semaine. Non, mais il faut voir les choses comme ça. On revient tout de suite après. Les gens se demandent beaucoup, bon, quand va venir mon tour pour me faire vacciner? On parle beaucoup de cette adhésion à la vaccination. Fait que c'est important quand les gens sont volontaires de pouvoir leur dire, ben voici à peu près à telle période. En ce moment, c'est encore pas très clair. Premier ministre Trudeau a dit, d'ici septembre, là, tous les Canadiens vont être vaccinés. Tout à l'heure, le docteur Brousseau, président du comité sur l'immunisation du Québec, nous disait que pour la population en général, là, ça va être surtout cet été là, que ça va vraiment être votre tour. En attendant, il y a beaucoup de gens là, qui sont inquiets, qui s'estiment qui devraient être sur la liste, là, qui s'estiment peut-être plus à risque que les autres. Jean, bonjour. Vous pensez que ça va venir quand, votre tour? D'abord, voulez-vous vous faire vacciner?
Oui, je veux me faire vacciner, Isabelle. On s'est déjà parlé de quelques mois. Mm-hmm. Moi, depuis 2009, j'ai eu deux opérations au poumon. J'en suis présentement à mon quatrième cancer. Je suis présentement sur le traitement de immunothérapie et de chimio. Puis ce qui m'inquiète, c'est les nouveaux variants qu'il y a présentement.
Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'on vous a dit, Jean, ben monsieur, avec votre situation de santé, vous êtes prioritaire, non? Vous n'avez pas eu aucun appel?
On m'a déjà parlé de priorité. J'ai demandé même à mon chirurgien qu'est-ce qu'il en était concernant ça. Même mon oncologue m'a dit, on ne sait pas quand est-ce que vous allez être vacciné du tout.
Parce qu'il n'y avait pas de dose, c'est ça, hein?
C'est justement, puis là, on sait que les doses vont s'en venir, là. Puis là, quand même, ces variants-là m'inquiètent. Pourquoi? Parce que moi, je sais que si j'attrape quoi que ce soit, je regrette, mais je passe pas au travers. On m'a averti. Le fait d'avoir juste un poumon, puis d'être en traitement d'immunothérapie chimio, c'est certain qu'on me demande d'être très, très, très vigilant, de faire attention à mes déplacements.
Ça, c'est sûr, Jean. Mais je pense que vous avez de bonnes chances de vous faire vacciner quand même parmi les prioritaires. Je pense que c'est important, si vous avez un suivi médical, là, de le dire à votre médecin. Tous ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, merci Jean et bon courage. Tous ceux qui nous écoutent qui ont un médecin de famille ou autre spécialiste, je pense qu'on peut le dire. Benoît Barbeau, hein, une des choses à faire, ça serait de le dire à votre médecin si vous estimez que vous devriez vous faire vacciner en priorité. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas.
Ben, je crois que le médecin lui-même le sait et est courant, évidemment, à votre dossier. La question est, comme on l'a entendu parler, je crois qu'en ce moment, on ne comprend pas, on ne connaît pas vraiment qui est prioritaire et comment déroulera la suite.
Ouais.
On a comme été dans on est passé entre deux chaises, dans le sens qu'on avait une pénurie, puis là, on commence à voir qu'il va y avoir de nouveaux vaccins, de nouvelles doses qui vont arriver. Ce qui est cependant important aussi de mentionner, c'est qu'il faut aussi donner crédit au gouvernement. On leur donne plus souvent le crédit, mais n'empêche de fait qu'ils ont rapidement décidé d'y aller avec une dose et de maximiser justement l'administration d'une dose plutôt que de garder les deuxièmes doses. Je crois que ça, en soi, c'est quand même une bonne décision. On voit un peu comment ce qui est arrivé au niveau des problèmes d'approvisionnement, mais on sait maintenant que la première dose en tant que telle est suffisante. Alors, donc, déjà là, on a été capable de couvrir le plus de personnes. Et évidemment, ils ont accentué leurs efforts plus au niveau des CHSLD parce que c'était là qu'il y avait le plus haut taux de mortalité. Et lorsqu'on regardait justement les pourcentages, on voyait que l'impact était là. Mais là, le problème, il faut l'admettre, c'est justement les fameuses doses vaccinales. Alors, malheureusement, la pénurie est là. On attend, et là, je crois qu'il y a des personnes qui doivent être priorisées. On entend parler justement des gens qui sont immunosupprimés, qui ont des cancers, donc qui subissent la chimiothérapie et qui donc sont beaucoup plus sujets, que ce soit le variant ou même le virus initial, d'être infecté, en effet, fait en sorte que vos chances de développer des symptômes sévères sont beaucoup plus élevées et que vous soyez admis aux soins intensifs. Alors, il est certain que le gouvernement j'imagine, déjà une stratégie claire. Maintenant, il est faut être encore malheureusement patient, puis votre tour va venir, mais c'est certain qu'on a tardé grandement, et ce n'est pas uniquement la faute du gouvernement provincial. J'aurais tendance à dire qu'en effet, on a vraiment eu un problème au niveau, comme vous le savez, de l'approvisionnement des vaccins.
Puis de l'approvisionnement, puis ça, oui. Vous dites qu'il faut quand même, quand vous dites de donner au gouvernement parfois un peu de ce qui lui revient, là, vous parlez peut-être du Québec, parce qu'au fédéral, je pense qu'on n'a pas de fleurs à donner à Santé Canada et à la façon dont le gouvernement Trudeau a géré ça. Je veux dire, ils se sont complètement trompés, là. Ils ont fait confiance à un vaccin en faisant affaire avec des Chinois. Ils ont fait ça trop tard. On apprend là, ce matin, que finalement... c'est au mois de juin dernier, alors qu'on avait déjà vécu un premier confinement, qu'ils ont eu la brillante idée de faire un comité pour gérer ça. Là. Franchement, c'est plus une heure plus tard des Maritimes, là, c'est trois mois plus tard. Là. Il était où? Sincèrement, c'est fâchant, vous trouvez pas, M. Barbeau?
Oui, c'est clair. Et l'autre chose, écoutez, je crois qu'il y a eu plusieurs problèmes au niveau fédéral. Le provincial, là, c'est tard, pas au niveau du vaccin. Je pense qu'il y a eu des situations, mais encore là, on vit quand même une pandémie, puis ça fait à peine un peu plus d'un an là, qu'on, si on parle, on peut dire les premiers cas en Chine en 2019, mais n'empêche que je crois que au niveau provincial, ils ont agi un peu avec les données, puis ils ont été dans des décisions qui n'ont pas toujours fait d'affaires, mais ça, ils ont été quand même de façon assez méthodique, et je crois que leurs décisions avaient un fondement. Au niveau fédéral, pour ce qui est des vaccins, c'est sûr qu'on a manqué notre coup, puis on a. Et c'est pas juste au niveau de l'année dernière. Ça a été peut-être plus provoquant ce qui s'est passé justement au cours des derniers mois. On n'a pas été nécessairement assez agressif, et puis on a pris des décisions qui étaient loin d'être les bonnes. Mais l'autre chose, c'est qu'au niveau justement d'infrastructure au Canada, de la production au niveau canadien des doses vaccinales, il y a eu vraiment un manque, un laisser-aller, puis on avait quand même des endroits des manufacturiers qui pouvaient produire des doses vaccinales, et ça, malheureusement, on les a perdus au fil des ans. Si bien qu'en ce moment, au Canada, on n'a pas vraiment cette capacité que Pfizer pouvait rechercher, que Moderna pouvait rechercher. On a quand même des bons exemples d'entreprises canadiennes qui arrivent justement, qui développent en ce moment très agressivement de nouveaux vaccins qui pourraient être distribués, mais n'empêche qu'on aurait dû être capable d'avoir une certaine capacité de produire des vaccins au sein du Canada bien avant. Et
complètement.
En effet, il y a eu des lacunes importantes, oui.
Ben oui. Est-ce qu'il est trop tard pour se reprendre?
Non, il n'est jamais trop tard. Du moins pour cette pandémie, je crois qu'en effet, on doit malheureusement avoir recours principalement à l'extérieur. Donc, que ce soit en Europe, en Belgique ou encore aux États-Unis. Mais n'empêche que je crois que c'est un message qui est clair, qui nous a été envoyé. La pandémie nous a montré nos lacunes et nos problèmes, nos manques. Alors, je crois qu'il va falloir que le gouvernement investisse et s'assure justement qu'on ait quand même une capacité pour produire des doses vaccinales, puis être capable d'une certaine façon d'être autonome et non pas à la merci justement des entreprises et des manufacturiers qui sont plus à l'extérieur. Alors là, il y a un problème de protectionnisme qui s'engage, et puis ensuite, on a justement ça a causé des problèmes au niveau de l'approvisionnement, bien que les entreprises aussi ont eu des problèmes quand même eux-mêmes, là, je crois.
Donc, il y a plus mais dans le post-mortem, dans le post-mortem, Benoît Barbeau,
oui.
Puis moi, j'en discute régulièrement avec les auditeurs, puis ça fait longtemps, n'en reviens pas de la naïveté du fédéral là, par rapport à toute la question de la pandémie, de la gestion de la pandémie. Là. Je ne parle même pas de la gestion des finances PCU ou tout ça, où c'est un autre échec, mais dans la gestion, parce que finalement, il y a plein de gens qui sont passés dans les cracks, puis il y en a qui en ont profité, alors qu'il y en a d'autres qui auraient dû, qui n'ont pas pu. Bref, mais sur la gestion des vaccins comme tel, le fait qu'on n'ait même pas pu nous-mêmes être parmi les premiers, on est les cancres. Et on a fait preuve d'une naïveté incroyable. Moi, je suis dans le meeting où quelqu'un propose de faire affaire avec le Parti communiste chinois. Je pense que je pose des questions. Là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lève le flag. Là. Ça se peut pas qu'il ait fait « Ah, bonne idée! »
en effet, je pense que...
Franchement!
Vous savez, il y avait une logique quand même scientifique derrière le partenariat qui existait avec la Chine. Donc, il y avait quand même une entreprise montréalaise qui fournissait du matériel. Puis, on pensait justement arriver avec quelque chose de concret. Mais en effet, je crois que uniquement baser notre avantage pour recevoir les doses vaccinales sur ce partenariat-là était vraiment pas la meilleure décision. Je crois que vraiment, il y aurait eu des ponts à créer avec les autres entreprises, mieux se préparer puis démontrer notre capacité de production, ou plutôt de les préparer un peu mieux. Et je reviens sur le fait que ce n'est pas uniquement depuis 2020 qu'on a ce problème-là. C'est un problème-là qui date depuis plusieurs années. Et je crois que c'était probablement un problème qui allait nous rejoindre à un moment donné. Puis malheureusement, c'est arrivé dans cette pandémie. Voilà. Puis là, en ce moment, on a de la difficulté à recevoir ces vaccins-là. Mais Dieu merci, là, on va voir justement un approvisionnement plus important, puis je crois qu'on va pouvoir revenir dans notre agenda au niveau de notre campagne vaccinale.
On revient tout de suite après cette pause. Bon, François, bonjour. Vous êtes professeur en développement de médicaments à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, de ce que je comprends, puis vous écoutez tout ça, puis vous avez des réticences?
Non, j'ai pas vraiment de réticences. C'est juste que moi, je m'attends à une efficacité globale, mais quand je parle globale, c'est-à-dire quand on aura vraiment un échantillonnage de statistiques plus représentatif d'à peu près 65%. Mm-hmm. Attention, le résultat de 80 est très bon, très encourageant, même comme plusieurs de vos collègues, vous-même l'avez dit. Au niveau exemple des effets secondaires, il y en a beaucoup moins, exemple même, que l'étude de phase 3 de Pfizer, si on se base sur les communiqués de presse. À présent, on parle du vaccin de Pfizer ou du vaccin de Moderna, qui ont une composition à peu près similaire. Par contre, j'ai entendu aussi tous les gens qui viennent de vous appeler.
Oui.
Moi, ce qui me fait plus peur, c'est les variants en tant que tels.
Exact.
À la mesure où un virus ARN comme le coronavirus a tendance à muter énormément. De toute façon, les virus mutent de façon naturelle. Et la vaccination, je dirais, quelque part, peut même catalyser la mutation en tant que telle et l'apparition de variants. Et comme ces vaccins-là, les deux vaccins dont on parle actuellement, parce que ça a été les deux premiers commercialisés, puis attention, encore une fois, excellent. C'est une très, très bonne chose.
Ben oui, il faut être content. Donc, vous êtes d'accord avec ça, François?
Oui, tout à fait. Bon.
Il y a des gens qui sont sceptiques. On sait bien, on a raison aussi de poser des questions. Il y a des gens qui disent que ça fait l'affaire des gouvernements de nous dire qu'une dose, ça fait l'affaire, étant donné qu'ils n'en ont pas deux pour le moment, mais bon.
Non, je suis entièrement d'accord avec vous. L'idée, c'est que, on voit, exemple, en Israël, on est rendu à 1 200 000 personnes de vaccinées. Là, l'échantillonnage devient un peu plus significatif.
Ouais.
On voit aussi qu'il y a une excellente efficacité, même après la deuxième injection. La deuxième injection, finalement, à mon avis, quand on voit un peu ce qui se passe, ne va faire qu'en guillemets, je dirais, prolonger la première.
Mm-hmm.
Pas un regain d'efficacité nécessairement. Puis tous mes collègues à l'université vont vous dire que « you have goddamn lies and then you have statistics ».
Oui, c'est ça.
Sarcastique.
Ouais.
Je ne suis pas en train de dire que le 80% n'est pas bon, mais il y a sûrement un écart type là-dedans. Ce que je voulais revenir uniquement, c'est que les vaccins actuels ciblent la fameuse protéine Spike S qui est en surface du coronavirus, OK, uniquement. Et tout le monde crache, entre guillemets, sur la Chine en tant que telle actuellement, parce que, le régime communiste, c'est une chose. Mais si on regarde le vaccin chinois Sinovac, c'est un vaccin qui est beaucoup plus conventionnel, qui est un peu plus, comme je dirais, un vaccin grippal, c'est-à-dire c'est une soupe, OK, de virus en tant que telle, qui cible non seulement la Spike S, mais aussi d'autres composants du virus. Donc, qui serait peut-être moins réfractaire aux variants.
Mais dont l'efficacité, c'est le fameux... Il y a deux vaccins développés par les Chinois de Sinopharm, ouais. C'est ça? L'efficacité
ouais.
à 79%. Oui,
mais sur les 79%, là,
ouais.
c'est quoi
ouais.
l'échantillonnage? C'est quoi
exact.
Les critères d'évaluation? Mm-hmm. Là, actuellement, on parle de 80%, mais qu'est-ce qui a été évalué? C'est quoi la population? C'est quoi l'âge? Est-ce que là-dedans, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont justement beaucoup plus...
Et ça, on ne sait pas, parce que ça n'a pas été publié, ces résultats-là. Hey, François, vous êtes fascinant. Merci de nous écouter. C'est le fun. Les profs d'université nous appellent. On garde vos coordonnées. Merci beaucoup. Merci bien. Il y a Micheline qui a 75 ans. Micheline, et puis vous allez vous faire vacciner bientôt?
Ok, oui, madame.
Bon, vous avez votre date ou vous savez à peu près quand?
On m'a dit probablement vers la fin de mars.
Donc, vous êtes contente?
Je suis contente, puis il faudrait pas lever le nez là-dessus. Il faut se garder une petite gêne. Là. Les vaccins sont là, on va en profiter.
Parfait. C'est un beau message que vous faites.
Le 20%, le 20% qui reste,
oui.
Je le garde pour moi pour me protéger encore. Avec le vaccin.
Mon Dieu, Micheline, vous êtes bonne. Vous êtes une bonne porte-parole. Le gouvernement vous aimerait.
Il faut arrêter là, de lever le nez sur tout. Là.
OK. Merci beaucoup, Micheline, parce que Lise, elle, est inquiète. Bonjour, Lise. Vous avez plusieurs conditions de santé difficiles. Et là, vous dites comment ça se fait, moi, qu'on ne me priorise pas. Là.
Je vais avoir 64 ans dans une couple de semaines. J'ai un cancer. Je suis immunosupprimée. J'ai un cancer qui ne se guérit pas. À la suite duquel, j'ai aussi perdu mes reins. Donc, je fais également de la dialyse.
Mm-hmm.
Par contre, j'ai pris une décision. Je fais de la dialyse à la maison. Ce que je veux, c'est un message d'encouragement pour les personnes qui sont dans ma situation.
Ouais.
Non, je ne sais pas quand je vais être vaccinés. J'en ai parlé à mon équipe médicale qui me dit, ben on ne sait pas. Mais c'est sûr, comment ils pourraient quand les vaccins ne rentrent pas à des vitesses qu'ils devaient rentrer?
Ben écoutez, par contre,
j'allais juste dire, par contre, la seule personne qui peut faire quelque chose pour moi, c'est moi-même.
Ouais.
Donc, je me protège, je ne sors pas, je fais attention. Puis quand il va arriver le vaccin, puis je suis d'accord avec Micheline, même quand il va arriver le vaccin, il en reste un deuxième qu'on n'aura pas eu. Donc, je vais continuer, moi, à me protéger.
Mais vraiment, Lise, vous avez tout à fait raison. Et puis, vous savez que pour vous rassurer un peu, les doses arrivent. Là, selon, alors, il y a 400 000 doses là, qui de Pfizer-BioNTech là, qui sont arrivées. Il y en aura 475 000 autres la semaine prochaine. Et c'est Danny Fortin, là, le major général, qui s'occupe de les dispatcher un peu dans les provinces. Donc, on devrait avoir plus d'informations au cours des prochains jours. Laissez-moi remercier Benoît Barbeau. Monsieur Barbeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Avec plaisir.
Virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. On avait encore plein de questions pour vous, mais on se reparle la semaine prochaine, Benoît Barbeau.
Certainement.
Merci. Ouais. On va s'arrêter ici, très courte pause. On parlait d'infestation de rats et de bébites tout de suite après les nouvelles. Restez là, tout le monde.